La première.
Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen.
La genèse des Ailes du désir, c'était clairement de faire un film dans Berlin, et sur son passé, et tout ce que cette ville représentait pour moi, l'Allemagne tout court.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom, und diese Pfütze, das Meer.
Entrez sans frapper.
12h16, nous accueillons Dick Tomasovic. Bonjour Dick.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Bonjour, on le rappelle, vous êtes chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'Université de Liège. Nous allons parler de deux films. Le premier, un film allemand, le deuxième, un film français d'animation. On va d'abord s'intéresser aux Ailes du désir. On a entendu, je crois que ce sont les premières phrases du film, dit par le comédien principal, on va en parler. Les Ailes du désir, ce film que Wim Wenders a réalisé en 1987. On rappelle que c'était quand même 2 ans avant la chute du mur et que ça a de l'importance, cette information-là. On va en parler avec vous. Et c'est à l'occasion de la sortie d'un coffret collector de Carlotta qui a été le fruit d'un travail de restauration assez particulier, Dick.
Oui, le film n'est que de 87, ce qui n'est pas très très vieux en soi, mais en fait les copies à disposition étaient très endommagées et en vérité c'est pour les 30 ans du film en 2017 que Les Ailes du désir a fait l'objet d'une superbe restauration 4K pour être ressortie en salle. Et c'est cette restauration qui se retrouve désormais disponible dans ce coffret Blu-ray. Et c'est vraiment une bonne chose puisque les précédentes versions que l'on pouvait avoir chez soi étaient en fait en assez piteux état. Pourquoi ? Ouais. Parce que le film est un mélange de noir et blanc et de couleurs. Mmh. Et à l'époque, c'était un dispositif assez complexe. Il fallait donc filmer avec différentes pellicules et puis recopier ces pellicules sur d'autres. Et en vérité, Wenders avait perdu quasi 6 générations, comme l'on dit, c'est-à-dire 6 niveaux de qualité, ouais, entre la pellicule originale et le film terminé. Or, il avait confié la direction photo à Henri Alcan. Henri Alcan, c'est un immense et légendaire chef opérateur français. Il avait fait la bataille du rail de René Clément, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, Les Vacances romaines de William Wyler, c'est lui aussi. Pour ne citer que.
Oui, il y avait une maîtrise du noir et blanc incroyable.
Absolument. Et Wenders est allé le rechercher hors de sa retraite, parce qu'il a alors 77 ans, pour obtenir le noir et blanc qu'il va imaginer, c'est-à-dire un noir et blanc assez féerique, d'une grande subtilité. Je ne dirais pas que c'est un film en noir et blanc, c'est un film en toute nuance de gris. Mm-hmm. Et en vérité, on n'avait pas de copie qui rendait hommage à la beauté du film original. Et donc là, on est parti vraiment des différents morceaux couleurs et noir et blanc qu'on a retrouvés, qui avaient été sauvegardés et que l'on a simplement nettoyés et stabilisés. Et on a refait le montage complètement, en imitant évidemment de manière très exacte le montage de 87. Et donc on a un grain d'image, une infinie palette de gris qu'on n'avait jamais même pu imaginer. Donc on a vraiment... Enfin,
oui, c'est une meilleure version que la sortie de l'époque finalement.
Ah oui, absolument. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Alors c'est aussi un coffret qui donne accès au scénario du film, oui, et à quelques bonus.
Oui, alors c'est classique, les entretiens Wim Wenders, c'est des scènes coupées, bon, ce genre de choses. Ouais. Mais il y a un très chouette livret d'une à peu près 200 pages. Il s'appelle Le ciel de Berlin, les ailes du désir. Et en fait, on y retrouve des photos d'archives assez exclusives, mais surtout aussi le scénario en français, donc illustré du film. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que dans le film, il y a quelque chose d'assez hypnotique, parfois dans la voix des anges, on va y venir. Hein. Mm-hmm. Un texte assez littéraire écrit en collaboration avec Peter Handke. Ouais. Et là, on a l'occasion de revenir un petit peu sur des moments de monologue de ces personnages très littéraires, de pouvoir s'arrêter dessus. Donc ça aussi, c'est assez précieux avec ce coffret.
Voilà, un film qui s'appelait dans sa version originale Der Himmel über Berlin. C'était quoi ce film? Parce que moi, je me souviens de l'avoir vu à la sortie. Présentez-nous ce film, son casting aussi, qui est très étonnant. Il y a d'ailleurs une espèce de guest star assez connue du grand public. Et ça raconte quoi, finalement?
Alors, le film situe son histoire dans les lieux et l'époque de son tournage, à savoir 1987 à Berlin. Et en effet, vous le disiez, on est très loin d'imaginer, ouais, à ce moment-là que 2 ans plus tard, ce fameux mur qui divise la ville et que l'on va voir beaucoup dans, ouais, le film, va s'effondrer. Et donc rendre Berlin à Berlin en quelque sorte, mais transformer l'Allemagne, transformer aussi nos blocs géopolitiques, bien entendu. Et tout ça est important parce que ça colore aujourd'hui indéniablement le film d'une espèce de filtre mémoriel un peu supplémentaire. Alors, on y suit 2 anges. De vrais anges, des anges avec des ailes, etc. L'ange Damiel, c'est Bruno Ganz, et l'ange Cassiel, c'est Otto Sander, qui errent à travers la ville. Ils sont invisibles aux yeux des humains, à part les jeunes enfants qui peuvent les apercevoir. Mais eux, ils voient tous les humains et surtout, surtout, ils entendent, ils recueillent toutes les pensées des hommes et des femmes qu'ils croisent, et notamment beaucoup de voix intérieures des habitants de la ville qui sont des personnes blessées, enfermées dans leur malheur, leur vieillesse, leur infirmité, leur deuil, leur dépression, ce genre de choses. Ces anges ont de l'empathie, mais ne peuvent rien faire pour eux. Mmh. Mais il se trouve que Damiel, donc c'est Bruno Ganz, a de plus en plus envie, d'agir dans le monde des humains, d'essayer d'entrer en empathie, de comprendre mieux la condition humaine. Et notamment, il fait deux rencontres importantes. La première avec une femme, une Française exilée qui est Marion, jouée par Solveig de Martin, mmh. Qui est devenue, à la suite d'une séparation dans le film, trapéziste de cirque.
Ouais.
Et il est infiniment touché par la grâce de la circassienne. Et on le comprend parce qu'elle est aussi très amoureusement filmée par Wenders. Elle sera d'ailleurs un temps sa compagne. Et donc, c'est une première chose, il a envie de devenir humain pour pouvoir la rencontrer, en fait,
ouais. hein,
et passer en quelque sorte de l'autre côté. Et puis, la deuxième rencontre, hein, c'est celle avec, vous l'avez annoncé, c'est Peter Falk.
Mais oui, voilà, l'inspecteur Columbo, le lieutenant Columbo.
Oui, ouais, grand acteur chez Cassavetes, et bien sûr, hein, le fameux lieutenant Columbo qui joue son propre rôle ouais. de Peter Falk, c'est-à-dire un acteur américain en tournage à Berlin, mais qui ressent la présence des anges. Et même s'il ne les voit pas, il est capable de leur parler, ce qui laisse supposer hein, qu'il a peut-être une proximité avec les anges. Alors, j'en dis pas plus, mais en fait, ces deux rencontres vont inviter Damiel à essayer de quitter son statut d'ange pour rejoindre la condition humaine.
Voilà, ça, c'est l'histoire de ce film magnifique qui se situe comment dans le parcours cinématographique du cinéaste Wim Wenders ?
Oui, à un moment assez crucial. Hein, Wenders, bon, son parcours est très complexe, c'est très singulier, il tourne toujours. Hein, Perfect Day, c'était sorti il y a
magnifique,
quelques semaines,
ouais.
on s'en souvient. Oui. C'est quelqu'un qui va développer son amour du cinéma en étant en France, parce qu'il... Après des études de médecine, il va se réfugier pratiquement à la Cinémathèque française où il voit l'histoire du cinéma. Il rentre en Allemagne, devient critique de rock et de cinéma, rencontre l'écrivain Peter Handke. Son premier grand film, c'est donc L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty en 72, première adaptation. Il fait ensuite une sorte de trilogie en forme de road movie, Alice dans les villes, Faux mouvement, Au fil du temps, où on sent déjà une espèce de fascination à la fois pour la culture musicale et cinématographique américaine et aussi un regard un peu désabusé sur la société allemande. Il commence à travailler vraiment ses dialogues en décalage, ses intrigues circulaires, des ellipses qui malmènent un peu la narration. Et puis en fait, il va se retrouver invité par Coppola lui-même aux États-Unis. Il va commencer à tourner là-bas, notamment pour la firme de production de Coppola, Hammett, qui va prendre un peu de temps à sortir, une adaptation donc, de Dashiell Hammett, un documentaire sur Nicolas
Ray, ouais.
Ouais, qui est absolument incroyable ce film, un ex-movie qui va suivre les dernières heures en fait de Nicolas Ray qui est atteint d'un cancer. Et puis surtout, il fait son Paris Texas en 84, adapté de roman de Sam Shepard, immense succès. Avec Natasha Kinski, Harry Dean Stanton, Dean Stockwell, Palme d'Or à Cannes. Et c'est en fait justement à ce moment-là où Wenders a une renommée mondiale, qu'il est devenu en partie un cinéaste hollywoodien, qu'il décide de revenir en Allemagne. Dit-il, sentant le besoin de retrouver sa terre natale et de faire un film hommage à la capitale qu'il a en partie fui dans le fond. Et donc il veut revoir la ville de Berlin, ses habitants, dire des choses et renouer aussi avec un cinéma que plus personne n'ose faire, c'est un cinéma finalement expressionniste allemand.
Mmh.
Et c'est ce regard en particulier, et un regard un peu extérieur, qui permet sans doute aux ailes du désir de trouver sa justesse.
Alors quand on écoute l'histoire que ce film raconte, telle que vous l'avez fait il y a quelques secondes, Dick, on pourrait se dire que c'est un film romantique. Or, c'est un faux film romantique. Et par ailleurs, c'est un film qui est quand même très dense et très complexe au niveau des thématiques qu'il aborde.
Oui, absolument. On a l'impression, puisqu'on parle d'ange et d'un ange qui tombera amoureux, qu'il y aurait simplement une tonalité intimiste et romantique. En vrai dire, c'est pas tout à fait ça que l'on ressent dans le film, puisque on sent d'abord le penchant de Wenders pour les personnages marginaux, à la fois chez les humains et à la fois chez les anges eux-mêmes, qui ont une errance marginale. Et puis, on va suivre un marginal parmi les anges, en quelque sorte.
Ouais.
Mais à travers cette situation-là, on va surtout affronter une espèce de maelstrom, de thèse assez complexe, portée par des monologues parfois très littéraires de Peter Handke. Et le film prend vite la forme d'un conte métaphorique qui aborde de grands thèmes existentiels et théologiques. On parle même de sotériologie, hein, c'est cette science théologique qui traite particulièrement du salut de l'humanité et de sa rédemption. Et donc, qu'est-ce que l'existence ? Quel est le propre de la condition humaine ? Comment est-ce qu'on peut vivre pour soi et pour les autres. Comment est-ce qu'on peut assumer ses désirs et ses obligations? Quel sens donner à sa vie? Quelle position, surtout, peut-on prendre pour se prémunir des horreurs de ce monde, puisqu'on n'arrive pas à empêcher l'horreur de ce monde?
Ouais.
Et bien sûr, Berlin est la ville témoin des horreurs.
Qui est un personnage à part entière.
Exactement. Ouais. C'est à la fois un grand décor et peut-être pas un personnage, mais dans le fond, c'est le sujet du film.
Ouais.
C'est-à-dire que les personnages animent Berlin, montrent Berlin, et une grande ville en souffrance d'elle-même, en réparation d'elle-même. C'est tout cela qui est raconté. Et puis, bien sûr, selon sa foi aussi, on s'interroge. Comment expliquer le silence de Dieu face aux atrocités ou comment vivre désormais dans un monde privé de Dieu. En fait, heureusement, le film ne fait que poser des questions, ne donne jamais de réponses. Mais on a donc une série de monologues comme ça, très, très importants, des différents personnages qui vont exprimer leurs doutes et leurs crises existentielles.
Ben, je vous propose justement de passer un de ces monologues, en tout cas un extrait d'un de ces monologues, extrait donc de ce film de Wim Wenders, Les ailes du désir.
Quand j'étais avec quelqu'un, j'étais souvent heureuse. Et en même temps, je prenais tout pour des hasards. Ces gens étaient mes parents, mais d'autres aussi auraient pu l'être. Pourquoi ce garçon aux yeux marrons était-il mon frère, plutôt que le garçon aux yeux verts que je voyais passer sur le quai d'en face? La fille du chauffeur de taxi était mon amie. Et de la même façon, j'aurais aussi bien pu de mes bras entourer la tête d'un cheval. J'étais avec un homme, amoureuse de lui. Et j'aurais pu sans hésiter le laisser là. Et poursuivre ma route avec cet inconnu que nous venions juste de croiser dans la rue. Regarde-moi ou non. Donne-moi la main ou non. Non. Ne me donne pas la main et ne me regarde pas.
Voilà, c'est un extrait très littéraire, évidemment. Moi, je me souviens du film, c'était un film passionnant. On peut rappeler qui est la voix française que l'on entend dans cet extrait, Dick?
Oui, c'est l'actrice principale qui joue donc le rôle de Marion. Et c'est Solveig Dommartin qui a fait une belle carrière, mais qui est malheureusement décédée très tôt dans son parcours.
Donc,
on l'a un petit peu oublié aujourd'hui, peut-être.
Oui. On entend la musique du film, on vient de l'entendre dans cet extrait. Et ça me permet de parler d'autre chose qui est, le côté très hybride de ce film. Et c'est son côté moderne aussi. Il y a plusieurs plans, c'est un film hybride.
Oui, absolument. On vient de l'entendre, un texte littéraire, des références très pointues à la théologie, à l'angéologie, à la liturgie des morts, au registre évangélique, mais dans un Berlin effervescent, où la jeunesse est très sensible au rock avant-gardiste, voire post-punk. On va entendre Laurie Anderson, Tuxedo Moon, on va beaucoup évoquer Nick Cave and the Betsies, jusqu'à voir à un moment donné un concert de Nick Cave dans le film, qui est alors la véritable star underground des nuits de Berlin, et qui offre une sorte de grand messe comme ça dans le film. Mais en fait, tout se mélange un petit peu. C'est vrai, il y a ce côté hybride fondamentalement moderne du film. On l'a dit, il y a le mélange du noir et blanc et des couleurs. Un noir et blanc très particulier que Henri Alcan avait obtenu, disait-il, en utilisant un filtre de sa fabrication, qui était un bas de soie particulièrement fin, qui aurait appartenu à sa grand-mère et qui aurait permis de tamiser en quelque sorte les choses. Alors, ce système de noir et blanc et de couleurs est assez intéressant. Il est
narratif aussi.
Il n'est pas tout à fait automatique, tout à fait compréhensible, mais on comprend quand même au fur et à mesure que l'on pratique le film que le noir et blanc, c'est en fait le regard des anges. Et la couleur, c'est le regard des humains. Et évidemment, lorsque l'un ange va passer d'un monde à l'autre, eh bien, on va passer du noir et blanc à la couleur. On va aussi mélanger documentaire et fiction. Et là, c'est vrai que ça rappelle un autre film qui est Hiroshima, mon amour, d'Alain René, de 59, qui avait déjà intégré des films d'archives à l'intérieur de sa narration. Wenders rejoue le coup, en quelque sorte, ici, intègre en effet des images d'archives de 1945 de Berlin au moment de sa chute, en quelque sorte, dans le film ici. Et puis, par ailleurs, fait lui-même œuvre de documentaire, en quelque sorte, en filmant si longuement le fameux mur de Berlin. Et puis, c'est aussi un film étonnant, parce qu'il a l'air très composé, On a entendu hein, des moments très littéraires,
très écrits. Ouais.
Très écrits. Les plans sont très composés eux-mêmes. Et en vérité, on découvre, en se renseignant un petit peu, que le film a été largement improvisé.
Ah ouais.
Et qu'il s'est basé beaucoup sur des idées de scène. Et que Wenders, en fait, de jour en jour, imaginait un petit peu les choses. Et que beaucoup de comédiens ont improvisé leurs textes à partir de fragments qui avaient été écrits par Peter Handke, ouais. Y compris Peter Falk lui-même, d'ailleurs. Et je dirais que l'hybridation va jusqu'au bout, c'est-à-dire que le film est à la fois terminé et incomplet, puisque on est surpris à la fin du film par un panneau qui dit « à suivre ». Et c'est vrai qu'on a un rythme tout à fait onirique, un peu indolent, un peu hypnotique hein, dans ce film. Et tout d'un coup, une femme brutale avec à suivre, et Wenders s'explique que bah, finalement, il avait un manque de moyens. Il n'avait pas pu faire le film qu'il voulait vraiment faire, puisqu'il voulait suivre un deuxième ange, qu'on voit un peu dans le film, et lui aussi suivre son trajet. Et en vérité, il le fera, mais bien plus tard, hein, ce sera dans Si loin, si proche, hein, ouais. 6 ans plus tard, mm-hmm. je crois. Mais en attendant, ce geste-là, cet improbable panneau à suivre, a été pris aussi comme un geste de grande modernité. C'est une manière de clôturer le film sans clôturer le récit, ouais. et de finalement faire prolonger la rêverie mélancolique du film.
Il faut voir, hein, découvrir si vous ne le connaissez pas, évidemment, ou revoir dans cette version restaurée, remarquable. Il faut voir et revoir Les Ailes du Désir, réalisé en 1987 par Wim Wenders. On le rappelle, hein, c'est un coffret collector publié chez Carlotta Film qui rend cette version disponible. Une page de pub et on vous retrouve, Dick, juste après pour parler d'un film d'animation.
La première,
entrée sans frapper.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.